Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto, bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Les jours peuvent être beaux, vous pouvez être heureux. C'est avec les mots du professeur Axel Kahn qui se bat courageusement contre un cancer et qui s'est confié au journal La Croix que j'ai eu envie de vous souhaiter la bienvenue dans RTL Soir. Et c'est vrai qu'on les attend, les beaux jours, les jours heureux, il paraît qu'ils reviennent et avec le sourire. Ce sera notamment le cas dès 18h35 tout à l'heure grâce à nos deux invités qui vont bientôt monter sur scène ensemble, duo improbable entre Eddie Mitchell et Laurent Gérard. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Découvrons avec vous les grands titres dans l'actualité de ce lundi 17 mai, s'il vous plaît.
Et les beaux jours, ce sera également mercredi, réouverture des terrasses, des cinémas et des magasins. On vous emmène ce soir en coulisses pour les tout derniers préparatifs. Côté vaccination, peu mieux faire, 25% des 75 ans, des plus de 75 ans ne sont toujours pas vaccinés. On vous dit pourquoi. Et puis dans ce journal également, l'inquiétude ce soir des humanitaires au Proche-Orient. 40 civils ont encore été tués la nuit dernière. Emmanuel Macron appelle ce soir à un cessez-le-feu.
Et à ce propos, à 18h15, c'est l'ambassadeur délégué de Palestine auprès de l'UNESCO, Mounir Anastas, qui sera l'invité d'actualité d'RTL Soir. La météo, bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Ouais. C'est ça. Hein, on l'a compris, quoi.
Il y en a marre.
Pour demain. Il y a une marge de progression, voilà.
Oui, il y a une marge.
Hein, c'est ça.
Il y a une grande marge de progression. Donc demain, bah oui, ça continue. Hein. Toujours ce même régime. On connaît le principe. Une éclaircie, un passage nuageux, une averse, une éclaircie, une averse. Puis bah, tout cela alterne sur quasiment toutes les régions. Alors comme aujourd'hui, quand même, on devrait avoir un peu plus d'éclaircie en bord de mer. Il faut aller en bord de mer. Voilà. Là, on a un peu plus de soleil.
Et bon, on y va.
Un peu moins d'averse près de la Manche, près de l'Atlantique. C'est agréable en plus. Ou encore sur les bords de la Méditerranée. Ou quand même aujourd'hui, pour nous faire un peu rêver, 27 degrés à Antibes
cet
après-midi. Oui, quand même. C'était juste à Antibes et un peu sur la Corse. Hein. Ailleurs, on était en dessous des normales. Ça sera
et là, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait là?
Mais bon. Oui, c'est, on se la pose régulièrement.
C'est un autre sujet.
Et donc, sous ces averses, parfois accompagnées d'orages, il y aura toujours un vent assez fort et ces températures toujours un peu justes pour la période. Le matin, on sera entre 6 et 10 degrés seulement. L'après-midi, 14 à 17 degrés au nord comme au sud. Il y a près de la Méditerranée. Là, on dépassera les 20 degrés jusqu'à 25, même parfois sur la Côte d'Azur.
Merci Louis.
RTL Soir.
Mais d'abord, ce soir, on voulait commencer avec cette révolution. Révolution dans le monde du sport. La Fédération française de rugby a décidé d'autoriser les transgenres dans les compétitions. Bonsoir Eric Silvestro.
Bonsoir.
C'est tout simplement une première en France.
Oui, en cette journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, la FFR a en effet décidé d'autoriser les transidentitaires à participer à toutes les compétitions officielles contre l'avis de World Rugby. Une initiative qui réjouit Jean-Bernard Molès, le président de la commission anti-discrimination et égalité de traitement.
Quand quelqu'un s'engage dans le sport, il ne doit jamais être dans le maquis de la honte et de la secrétude. Honnêtement, on est un sport de combat. Comme on dit, c'est des mecs, c'est viril, on se met sur la gueule et tout. C'est le contraire des nanas qui se maquillent, qui portent des talons et tout. Et bien nous, on leur dit, écoutez, vous êtes transgenre, vous êtes transsexuel. Si vous avez envie de jouer au rugby, vous venez, on vous file la licence et vous pouvez jouer comme vous voulez.
Alors concrètement, Eric, comment ça va se passer?
Alors sur le papier, la fédération veut jouer la carte de l'inclusivité. Tout le monde, hommes, femmes, transsexuels, transgenres, aura donc le droit d'évoluer avec n'importe quelle équipe de rugby. Les questions de sécurité et d'équité vont tout de même être prises en compte et étudiées. Et pour les hommes ayant entamé un processus pour devenir femme, une règle a été instaurée, comme l'explique Serge Simon, vice-président de la Fédé de rugby.
Il y a évidemment des conditions, c'est qu'il faut qu'il y ait un traitement hormonal de plus de 12 mois. Ce qui, normalement, va compenser l'avantage physiologique, même si là, c'est une question extrêmement complexe. Et une reconnaissance par l'état civil, par un prénom féminin. Je ne sais pas combien de personnes ça peut concerner. J'espère qu'on en aura une notion dans les mois à venir.
Oui, la FFR espère désormais, d'ailleurs, que d'autres fédérations lui emboîtent le pas.
Eric Silvestro, du service des sports de RTL. La crise sanitaire, et avant d'évoquer, Amandine, les réouvertures, arrêtons-nous sur ce chiffre. 25% hein, des plus de 75 ans ne sont toujours pas vaccinés aujourd'hui.
Oui, ça fait 1 sur 4, encore beaucoup trop aux yeux du gouvernement qui en a fait l'une des priorités de ces prochaines semaines. Parmi les départements les plus touchés, il y a l'Aude. Plus de 35% des plus de 80 ans là-bas n'ont toujours rien reçu, pas même la première dose. Souvent un problème de communication, comme nous l'explique Antoine Bourdon. Il est directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Carcassonne.
Nous appelons les personnes à leur domicile et nous essayons bien évidemment de les convaincre de l'intérêt de la vaccination. Nous leur proposons bien évidemment, après leur avoir expliqué et après qu'elles nous ont donné leur accord, de prendre un rendez-vous pour elles dans le centre de vaccination le plus proche pour celles qui résident près d'un centre fixe. Nous avons également des opérations de vaccination mobile qui se déplacent dans les villages. Aujourd'hui, les infirmiers et les infirmières de notre département peuvent aller au domicile des personnes âgées que souvent elles connaissent par ailleurs pour leur proposer d'être vaccinées. C'est d'autant plus important qu'il y a un lien de confiance entre les personnes âgées et les infirmiers libéraux qui interviennent à domicile.
Des propos recueillis pour RTL par Patrick Tégéro. Dans les bars, les restaurants et les magasins, on s'active hein, plus que 36 heures avant la réouverture. Ce sera mercredi. D'ici là, RTL vous emmène en coulisses.
Marcel, deux cafés pour la 4, s'il te plaît. Et un soda pour la petite dame.
Et direction ce soir, l'un des plus grands magasins de France, c'est le Printemps Haussmann à Paris. Visite guidée signée Arnaud Touche.
Dans les allées du printemps, les employés peaufinent la mise en place. Et pour Sylvie Vantali, c'est quelques jours avant la réouverture permettent.
Se mettre aussi dans le bain, parce que ça fait quand même 3 mois, voilà.
Depuis plusieurs semaines, c'est elle qui fait le lien avec tous les vendeurs et vendeuses du rez-de-chaussée. Et elle est...
impatiente de revoir les clients, de voir les projets aboutir. Et voir les yeux émerveillés des clients également... découvrir nos projets.
Et le grand magasin a décidé de tout faire pour présenter un maximum de nouveautés dès l'arrivée.
C'est un espace stratégique parce que nous avons une grande mise en scène à l'entrée et qui reprend la thématique de l'opération et de la vitrine.
Romain Stiegler est le responsable artistique et un peu partout dans le magasin, des mots-clés ont été déclinés sur les murs.
Danser, savourer, découvrir, flâner. Des moments qu'on souhaite être aussi importants aussi bien en magasin qu'à l'extérieur du magasin. Dès l'entrée, effectivement, on donne le ton sur la saison et sur l'ambiance des collections, mais aussi sur une vision qu'on a de la mode et en même temps de l'actualité.
Et dès mercredi 10h, les 3000 employés seront prêts à accueillir les clients et leur présenter les nouvelles collections d'été.
Arnaud Touche dans les coulisses du Printemps Haussmann à Paris. Disneyland Paris, lui, rouvrira ses portes le 17 juin. On l'a appris aujourd'hui, information importante, hein, puisqu'il faut le rappeler, c'est la première destination touristique privée en Europe.
Disneyland ?
Oui, Disneyland Paris, réouverture qui s'accompagnera bien sûr d'un protocole sanitaire très strict, masque obligatoire notamment dès 6 ans.
Eux, en revanche, n'ont toujours aucune date. Hein. Les patrons de discothèques trépignent et ils ont obtenu le soutien d'un certain nombre de maires, des élus du littoral notamment.
Oui, élus qui, avec l'été, redoutent le retour des fêtes sauvages. Parmi eux, celui de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Patrice Gabart s'est rendu sur place pour RTL.
Après 16 mois de fermeture, Rodolphe Buffard prend son mal en patience en tenue de bricoleur dans sa discothèque, l'Octopus.
Ça me fait du bien de remettre un petit coup de peinture ou de réparer les toilettes ou d'aménager le bar. Évidemment, ça me fait du bien. Puis j'ai pas mal de clients qui me témoignent leur soutien avec des petites vidéos en me disant on t'attend à l'ouverture, en attendant, bon, on fait ça chez nous avec de l'alcool, avec de la musique, avec de la danse. En fait, ils font tout comme en boîte de nuit, sauf que chez chacun c'est soi en fait. Et les gestes barrières, c'est un peu difficile à appliquer.
Faute de discothèque, beaucoup de jeunes se sont aussi rassemblés sur les plages l'été dernier et ça continue quand la météo s'y prête. L'appel du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, François Blanchet, à leur réouverture pour la saison estivale.
On a été obligé d'intervenir de façon très très fréquente et très très régulière parce qu'il y avait des rassemblements, parce qu'il y avait des feux de camp, parce qu'il y avait des choses dans des lieux qui ne sont pas du tout faits pour ça. Quoi. Et c'est vrai que le souci, c'est que quand les bars s'arrêtent à 2h du matin, qu'est-ce qu'on fait des jeunes quoi. Là, à 2h du matin, on met tout le monde dans les rues. Les jeunes ne peuvent plus sortir le week-end. On a mis un petit peu de temps à voir ce désarroi de la jeunesse, mais aujourd'hui, on s'en rend compte et on veut leur donner de l'espoir et on veut aussi donner de l'espoir à leurs parents et à leur famille et on se bat pour qu'ils aient un lieu encadrer l'été pour faire la fête en toute sécurité.
Quitte à sacrifier les pistes de danse, cela fait partie aussi des hypothèses.
Oui, transformer les discothèques en bars de nuit, c'est l'une des pistes que proposent ces patrons. Reportage de Patrice Gabart à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée.
On marque une pause dans un instant. La crise au Proche-Orient, ça ne s'arrange pas. Emmanuel Macron appelle ce soir à la fin des hostilités, mais il faudra sans doute bien plus que des mots pour y arriver.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h et pratiquement 10 minutes suite du journal avec vous, Amandine Bégaud. Emmanuel Macron appelle donc ce soir au cessez-le-feu au Proche-Orient.
Un appel lancé après une nouvelle nuit de frappes et d'horreurs. Au moins 40 civils tués dans une même rue à Gaza. Sur place, les associations humanitaires se disent ce soir très très inquiètes, Émilie Beaujard.
Oui, car jusqu'ici, les discussions pour un cessez-le-feu avec Israël et le Hamas n'ont pas abouti. Les points de passage vers Gaza restent donc fermés. Personne n'entre, personne ne sort, mais surtout aucune aide humanitaire ne peut donc entrée. Elie Sok est le chef de la mission de Médecins sans frontières dans les territoires palestiniens.
On ne peut pas faire entrer du personnel médical, on ne peut pas faire rentrer des médicaments, de l'essence pour les générateurs, pour faire fonctionner la centrale électrique, etc. Ça devient de plus en plus compliqué. S'il n'y a plus rien qui rentre, à un moment donné, tout va s'effondrer. Ils ne seront plus en capacité de prendre en charge les patients.
Oui, les hôpitaux de Gaza ne pourront bientôt plus prendre en charge tous les blessés graves, d'autant que 2 médecins ont été tués dans les bombardements ces dernières heures. Ce soir, le directeur général de l'OMS rappelle que la protection des infrastructures médicales et des personnels de santé est un impératif en droit humanitaire international.
Émilie Beaujard du service étranger de RTL, et rappelons que dans quelques minutes, c'est l'ambassadeur délégué de la Palestine auprès de l'UNESCO qui sera l'invité d'RTL soir.
À 2 jours de la mobilisation des policiers, Gérald Darmanin, lui, leur renouvelle son soutien. Le ministre de l'Intérieur l'assure, il sera à leur côté mercredi.
Je peux comprendre leur colère. Et moi qui suis le premier d'entre eux, d'abord je veux leur dire que je les soutiens, je crois qu'ils l'ont compris, et je serai mercredi lors de cette manifestation, parce que c'est une manifestation pour la République que celle des policiers, et je vais leur dire qu'effectivement nous sommes tous ensemble dans le même bateau pour lutter contre l'insécurité.
Des policiers qui, ces dernières semaines, ont été profondément choqués par le verdict rendu dans l'affaire de Viry-Châtillon. 8 des 13 accusés poursuivis pour avoir brûlé des policiers ont été acquittés. Nouvel élément ce soir dans cette enquête, élément qui risque d'attiser encore leur colère. Ces nouvelles plaintes déposées par les avocats des jeunes mis en cause. Alice Moreno, ils dénoncent une enquête tronquée.
Absolument, selon eux, des auditions ont été menées sous pression. Les propos des témoins et mis en cause ont été parfois même déformés. Les avocats ont visionné les vidéos des interrogatoires de leurs clients. Pour eux, il y a un décalage évident avec ce qui a été retranscrit par les enquêteurs. Ils parlent même de preuves fabriquées. 4 plaintes ont été déposées auprès du parquet d'Evry pour faux en écriture publique et escroquerie au jugement, notamment. Maître Frédéric Petit-Permont défend un jeune homme condamné à 18 ans de prison.
L'ensemble des preuves qui ont permis dans un premier temps d'aboutir à la condamnation de nombre de ces jeunes ne résultaient pas de constatations de la part des officiers de police, mais de construction de preuves. Et construction de preuves. Les officiers de police, tête bêche, ont souhaité construire des coupables plutôt que de tenter de découvrir qui étaient les véritables auteurs.
C'est la Sûreté départementale de l'Essonne qui menait ces investigations. Autrement dit, certains enquêteurs étaient des collègues, des proches des policiers victimes. Trop proches, peut-être, de l'aveu même d'un avocat des policiers blessés. Le directeur de la police nationale maintient, quant à lui, son soutien total aux enquêteurs dans cette affaire.
Alice Moreno du service police-justice de RTL. Merci.
La bonne nouvelle ?
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Plus soleil.
On a envie de soleil.
Ah bah oui. Hein, mais ça, adressez-vous à Monsieur Bonnac en face de vous.
Oui, oui. Alors justement, je sais quand on va pouvoir aller boire un verre en terrasse sans se faire arroser. Ce ne sera pas mercredi, Louis,
non,
mais
jeudi,
le lendemain de la réouverture.
Attends, c'est attends, parce que la bonne nouvelle, c'est que mercredi fait moche, c'est ça?
Non, c'est qu'on a trouvé le moment, parce qu'on arrête. Okay. C'est sans fin ce mauvais temps. Donc on sait quand on pourra aller boire un verre en terrasse, presque au soleil, Louis, non?
Exactement.
Jeudi.
Et presque avec un peu de douceur. Puis en plus, mercredi, il y aura trop de monde.
Mais jeudi de cette semaine ou
mais
de...
cette semaine. Là,
et ce sera partout?
Et ce sera partout. Bah, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que là, ça concernera pratiquement toutes les régions.
Ah, j'ai une autre bonne nouvelle.
Tous en t-shirt jeudi.
Astérix vient de griller Mickey. Cher Gaulois, le parc Astérix ouvrira ses portes le mercredi 9 juin 2021. Vous avez dit le 17
17 hein, pour Mickey.
Eh bah ben voilà, Astérix, Disneyland. Ça sera le 9 juin. Merci beaucoup et à tout à l'heure, Amandine. Il est l'ambassadeur délégué alternant de la Palestine auprès de l'UNESCO, Mounir Anastas, et l'invité de RTL Soir. C'est tout de suite et c'est en direct.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
Il est l'ambassadeur délégué alternant de la Palestine auprès de l'UNESCO, Mounir Anastas, et donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Mounir Anastas.
Bonsoir, merci.
Je voudrais vous lire pour commencer un récit de l'agence France Presse. Sur un lit d'hôpital de Gaza, Mohamed Al-Hadidi tient de ses grandes mains qui tremblent son bébé, Omar, le seul membre de sa famille à avoir survécu à la frappe israélienne qui a tué sa femme et ses 4 autres enfants dans leur sommeil. « Il ne me reste plus rien, je n'ai plus que toi », répète lundi le père palestinien de 37 ans en fixant son fils endormi. On compte les morts des deux côtés, 200 palestiniens dont 59 enfants, 10 israéliens dont un enfant. Ça fait plus d'une semaine que le sang et les larmes coulent entre israéliens et palestiniens, plus d'une semaine que l'on compte les morts de part et d'autre. Que faut-il faire pour que le massacre cesse ?
Eh bien, vous l'avez bien énoncé. En réalité, cette image dont vous parlez, je l'ai vue et on n'a pas besoin d'explication lorsqu'on voit cette image. C'est terrible. C'est tout ce qui peut arriver de plus horrible à un être humain. Cependant, je souhaite quand même, si vous me permettez, Monsieur Soto, avant de répondre à votre question, de déclarer quelques principes fondamentaux qui doivent être guidés carrément notre discussion. Malheureusement, les autorités israéliennes essayent de conférer une couleur religieuse au conflit. Or, j'insiste sur ce point, notre conflit, le conflit entre Palestine et Israël, est un conflit politique et juridique et n'a rien à voir avec la religion. Ça, c'est la première chose. La
deuxième... disent les Israéliens que le Hamas est un groupe terroriste islamiste.
On va revenir.
C'est vrai ou c'est pas vrai, ça ?
D'abord, un groupe terroriste islamiste, ça, c'est la définition d'Israël.
Mais est-ce que c'est pour vous, non ?
Pour moi, c'est une faction, c'est un parti politique extrémiste palestinien. C'est un comme vous avez en France et ailleurs des partis extrémistes avec lesquels vous n'êtes pas d'accord probablement, et il existe en Palestine aussi des factions extrémistes. C'est le cas de Hamas.
Mais aujourd'hui, le Hamas est l'allié ou l'ennemi des Palestiniens ?
Alors, justement,
il leur fait du bien ou il leur fait du mal ?
On va revenir à l'origine et à cette question qui est tout à fait appropriée. Cependant, la deuxième chose que je souhaitais aussi déclarer comme principe fondamental pour nous, pour la Palestine, pour le gouvernement palestinien et le peuple palestinien, nous condamnons fermement les attaques contre les civils, quels que soient les civils. Que ce soit des civils à Gaza, des Palestiniens, des Israéliens, n'importe où, les civils ne doivent pas être victimes
de
ces
conflits. Donc vous condamnez les attaques, qu'elles soient côté palestinien ou côté israélien ?
Non, pas les attaques. Moi, je condamne les civils.
Voilà. Contre les civils.
Par contre, la chose maintenant, revenons à la définition de Hamas. Comme je vous ai dit, Hamas est une faction, est un parti politique extrémiste.
Moi, ma question, elle est claire. Est-ce que pour vous, le Hamas est un allié ou un ennemi des Palestiniens ?
En fait,
est-ce qu'il leur fait du bien ou est-ce qu'il leur fait du mal ?
J'aurais préféré entendre la question autrement, parce que si on lit la presse israélienne, la presse israélienne prétend que Hamas est en train d'aider Netanyahou, et vice-versa, d'ailleurs. Bon, maintenant...
Mais si vous voulez, on va rester à mes questions et pas aux questions de la presse israélienne. Est-ce que vous pouvez me répondre là-dessus ? C'est un allié ou c'est un ennemi ?
Non, bien sûr, il fait partie du peuple palestinien. Ils font partie. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a des partis extrémistes, il y a des partis avec lesquels on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Ça, c'est une autre chose.
Est-ce que le Hamas se sert de sa population, comme le disait l'ambassadeur d'Israël en France qui était ici dans ce studio ce matin ?
Ça, c'est pas vrai.
Se sert de sa population civile
comme bouclier ? Non. Alors là, je souhaite répondre clairement. D'abord, on connaît très bien la technologie israélienne. Elle est très, très avancée. Pas 1000 fois, 10 000 fois plus avancée que celle de Hamas. Hamas n'a pas une technologie. Bon, bien. Ils ont déclaré avec fierté qu'ils ont développé une arme qui va sous terre pour viser, soi-disant, les tunnels. Très bien. Et on sait très bien qu'ils peuvent viser un appartement, voire même une chambre dans un appartement, pour assassiner telle ou telle personne, comme ils le disent. Or, on assiste à des destructions des immeubles entiers. Ben, parlons, par exemple, de...
Vous parlez de ce fameux immeuble de 13 étages, dont les Israéliens disent, à tort ou à raison, on n'en sait rien, qu'il abritait des structures stratégiques
et là-dedans,
pour le Hamas.
Associated Press et Al Jazeera.
Eux disent qu'il n'y avait pas que ça. Après, voilà.
Non, mais ça, il y a Associated Press, il y a un journaliste qui est sorti sur CNN, je l'ai vu moi-même, il a dit que ça fait des années qu'ils sont là-bas, ils n'ont jamais vu d'activité de Hamas. Ça, c'est primo. Même Blinken, lui-même, l'Américain,
Blinken,
qui disait qu'il n'a pas vu d'évidence, des
mais
preuves.
Mais Mounir Anastase, on ne va pas jouer pendant 10 minutes, c'est pas ma faute, c'est lui, c'est pas sa faute, c'est la mienne. Comment on en sort ? Comment on en sort ? Est-ce que vous demandez au Hamas d'arrêter d'envoyer des roquettes sur les populations israéliennes ? Non. Est-ce que vous demandez à Israël un cessez-le-feu immédiat ?
Vous prenez le cycle à partir du milieu. Vous oubliez ce qui a lancé ce cycle. C'est un problème.
Je le prends maintenant en pensant à ce papa dont je vous parlais tout à l'heure.
Oui, mais vous pensez à ce papa et vous pensez pas à tous ceux qui sont tombés à Jérusalem une semaine avant. Que ça ne commence à Gaza, ça commençait durement à Sheikh Jarrah. Et là, malheureusement, la presse était quasi silencieuse. Même vous pouvez regarder vos programmes et vos infos, vous allez voir que lorsque c'était à Sheikh Jarrah, on en parlait 3 secondes à peine,
oui,
et c'était
là,
à la
là
fin.
Vous êtes
non, mais
là,
attendez.
La situation est dramatique pour les Palestiniens,
mais
dramatique
c'est l'origine,
pour tout le monde.
Mais toujours, on parle, c'est ça le problème de la presse et des politiques européens. On essaye de traiter les symptômes et on ne va pas à la racine. racine du mal.
Qu'est-ce qu'il faut
c'est
faire
comme un médecin. Si vous allez qu'est-ce voir un médecin, faire, vous dites j'ai mal à la tête, il vous donne Doliprane et rentrez chez vous, c'est pas un bon médecin. S'il ne cherche pas pour, d'où vient ce mal
alors
de tête.
Alors qu'est-ce qu'il faut, comment on fait pour arrêter votre ministre des Affaires étrangères a parlé de crime de guerre. Comment
c'est
on fait pour que c'est le cas?
Oui, tout à fait, c'est le cas. Je vais vous donner quelques exemples. Écoutez, ce qui se passe actuellement à Gaza, ce n'est pas comme prétend Israël des assassinats ciblés. Écoutez, permettez-moi seulement de vous donner quelques informations
factuelles. Je vous permets tout ce que vous voulez. Je voudrais juste que vous me disiez comment. Est-ce que vous avez une piste, un début d'idée pour savoir comment on peut arriver à un cessez-le-feu? Est-ce que ça passe par la médiation égyptienne? Est-ce que ça passe? Comment on va y arriver?
Oui, maintenant, si vous voulez qu'on arrête simplement les symptômes, bon, on veut arrêter. Bon, on voit qu'il y a une hémorragie, on veut l'arrêter, on va mettre un garrot. Ça, c'est l'intervention égyptienne et tout ça. Et puis, il y aura cessez-le-feu qui va durer.
Donc, c'est pas suffisant pour vous, ça?
Non, mais bien sûr que non. Ça va être simplement remettre à plus tard un autre cycle de violence, voire qui sera pire que ça. N'oubliez pas que, avec ce qui. C'est pourquoi personne ne se pose la question. Pourquoi, d'un seul coup, non seulement Gaza, mais on a eu aussi au sud Liban, on a eu de l'autre côté de Jordanie et en Cisjordanie, d'un seul coup, et à l'intérieur d'Israël même. Et ça, c'est une chose qui était inattendue. Mmh. Et c'était une grande première. Maintenant, c'est ça ce qu'il faut. Il faut se poser la question. Pourquoi?
Alors,
et
pourquoi
si on essaye, comme vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, il faut une médiation, il faut des négociations. C'est ce qui se passe actuellement. Il y a des pourparlers, il y a des choses, et ça va s'arrêter. Mais est-ce que ça va résoudre le problème? Non. Ça, c'est simplement, on arrête l'hémorragie. Et c'est ce que font les Européens et les Américains.
Mais c'est pas important d'arrêter l'hémorragie, là. C'est pas important de
si,
dire
c'est important, des deux côtés. Si.
Vous ne vous dites pas ce soir, cessez le feu, cessez le feu.
Ah si, c'est bien sûr, on arrête. Bien
vous
sûr,
dites pas
on demande...
au Hamas, arrêtez de tirer des roquettes. Vous ne dites pas aux Israéliens, arrêtez de nous bombarder.
Nous demandons sans cesse la fin. Si on veut parler de l'origine du mal, c'est l'occupation. C'est l'occupation. Et ça commençait avec l'occupation à Jérusalem, à Sheikh Jarrah, puis sur l'esplanade des mosquées d'Al-Aqsa, et ensuite ça commençait à Gaza. Et on zappe toutes les premières épisodes, et on se concentre sur Gaza. Une chose aussi, et ça c'est l'hypocrisie de l'Occident, pour ne pas dire autre chose. Avant que ça ne commence l'affaire de Gaza, on n'entendait quasiment rien. On n'entendait quasiment rien. Lorsque ça commençait le bombardement de Gaza, on a commencé à entendre même Biden et qui commence à dire qu'Israël a le droit de se défendre. On n'a entendu personne dire que les Palestiniens ont le droit de se défendre lorsqu'ils étaient attaqués dans leur maison à Sheikh Jarrah. Personne ne l'a dit.
Ça veut dire que la communauté internationale n'est pas au niveau, n'est pas à la hauteur?
Non, c'est pas seulement on n'est pas à la hauteur. La communauté internationale, dans cette affaire, est complice. Parce que Israël bénéficie d'une impunité qu'on n'a jamais vue. Imaginez un autre État, je ne vais pas nommer, ou à titre d'exemple, imaginez Iran, l'Iran, qui se comporte comme Israël. Que se passera-t-il au Conseil de sécurité le lendemain? Et voyons, que s'est-il passé pour Gaza et pour la Palestine? Hier, jusqu'hier, et puis avant, ils n'ont pas réussi à prendre ni une résolution, ni une déclaration. À cause d'un seul État, c'est les États-Unis.
Qu'est-ce que vous dites à Emmanuel Macron ce soir? Il appelle lui aussi à un cessez-le-feu. Quel est le message que vous envoyez à la France ce soir?
Malheureusement, la France fait partie de ceux qui ont pris une position franchement honteuse. Franchement, parce que c'est pareil, on a entendu les demandes à se calmer et cesser le feu, et la France parlait de usage de force disproportionné, comme si c'était justifié. C'est ça le problème. Et on n'a pas entendu parler la France quand il s'agissait des familles à Sheikh Jarrah. On n'a pas entendu M. Macron. Donc je dis à M. Macron, où est la grandeur de la France? La France, d'habitude, quand elle disait quelque chose, le monde écoutait. Maintenant, c'est la France qui écoute les autres. Et ça, c'est pas normal.
Merci à vous, Mounir Anastase, d'être venu ce soir dans RTL Soir. Merci à vous.
Merci.
À suivre, l'œil de Natacha Polony, la directrice de Marianne, qui va nous dire que dans un an, eh bien, on saura dans un an. Eh oui.
Thomas Soto, RTL Soir.
RTL. Il est pile 18h30.
RTL Soir, Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour le rappel.
Et à la une, ce calendrier des réouvertures qui se précise. Ce sera le 9 juin pour le parc Astérix, le 17 pour Disneyland Paris. Les JO de Tokyo, en revanche, ont eux encore un peu plus de plomb dans l'aile. Ce soir, 80% des Japonais n'en veulent pas pour cet été. C'est 10 points de plus qu'il y a un mois. Dans l'actualité également ce soir, Emmanuel Macron qui appelle à un cessez-le-feu au Proche-Orient. Appel lancé après un échange à l'Élysée avec le président égyptien. Et alors que les bombardements se sont
poursuivi encore la nuit dernière. Et puis fin de la première étape des régionales, clôture du dépôt des listes, c'était tout à l'heure à midi. La campagne officielle, elle, débutera le 31 mai prochain.
La météo avec le soleil qui fait sa coquette, hein, il se fait désirer.
Il se fait désirer, bon, on le verra par intermittence, hein, comme ça a été le cas aujourd'hui dans la plupart des régions, sous les passages nuageux encore des averses, accompagnées d'orages plus fréquents en cours d'après-midi. Puis quand même, pour finir pour une bonne note, sur le bord de mer, en littoral, près de la Manche, de l'Atlantique, on devrait avoir un peu plus d'éclaircies, un peu moins d'averses. C'est encore plus vrai près de la Méditerranée, où là, on aura du grand soleil. Le vent sera encore de la partie, notamment du côté de la Corse, où on aura du grand soleil. Puis les températures, toujours pas de saison, 6 à 10 degrés le matin, quasiment partout. Et l'après-midi, 14 à 17 degrés, au nord comme au sud, alors qu'on devrait allègrement dépasser les 20 degrés. Ce que l'on parviendra à faire quand même.
Sur on a un beau mois de février quand même.
Oui, c'est ça. Un beau mois de février ou beau mois de mars. Mais on n'est pas encore au mois de mai, non, sur le plan météo.
Merci à vous, Louis. L'œil de Natacha Polony, c'est le lundi. Bonsoir,
bonsoir.
Natacha. Alors, on ne connaît pas encore la date exacte de la présidentielle de l'an prochain, en 2022, mais on sait que quoi qu'il arrive, dans un an, jour pour jour, la passation de pouvoir aura eu lieu. Alors, peut-être que c'est le même qui se passera, oui, le pouvoir peut-être. Lui-même, ça n'en sait rien, mais ça se décante un peu ou vous êtes toujours, vous aussi, dans le brouillard, là?
Bah, on va dire qu'on peut déjà exposer deux, trois certitudes.
Allons-y.
Alors la première, c'est que décidément, le quinquennat, c'est une des pires forfaitures politiques des dernières décennies. Parce que vous vous souvenez, hein, ceux qui étaient contre, on les traitait de ringards, parce que c'était moderne, le quinquennat. Le monde bouge, il faut accélérer les mandats. Moralité, le président a passé 4 ans au pouvoir et on est à temps plein sur la prochaine présidentielle. On se contrefiche de savoir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Alors la deuxième certitude, à un an d'une présidentielle, on est toujours dans le brouillard.
Vrai.
Mais oui, en fait, il est rarissime que les deux favoris soient ceux qu'on retrouvera au second tour. Souvenez-vous d'Édouard Balladur, hein, qui était déjà président, de Dominique Strauss-Kahn, d'Alain Juppé. Mmh. Bon, d'ailleurs, vous avez remarqué, ceux que les médias donnent élus dans un fauteuil, ce sont toujours les candidats les plus libéraux, ceux qui sont pour l'adaptation au marché. C'est drôle.
Bon, si je vous suis là, pour 2022, rien de nouveau, c'est ça?
Alors si, il y a quand même des phénomènes qu'on peut identifier. Premier point, on le redit depuis le début du quinquennat Macron, il y a un vide politique entretenu par les deux principaux bénéficiaires, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. 4 ans qu'on nous installe la ressucée du duel de 2017, et pourtant 75% des Français n'en veulent pas, dixit les sondages. Alors, vous me direz pourquoi ils ne se reportent pas sur un autre candidat. En fait, on sent bien qu'il y a une sorte d'attente. Au fur et à mesure qu'on entre dans le vif du sujet, que les candidats se déclarent, on va avoir un petit peu moins souvent droit aux conjectures sur Cyril Hanouna, Jean-Marie Bigard, Éric Zemmour. Mais le fantasme du candidat sorti de nulle part, ça révèle quelque chose. C'est que les gens sont prêts à tout pour éviter de revivre le blocage de la démocratie sur le thème « vous avez pas choix, faut faire barrage, donc vous votez comme on vous dit ».
Oui, mais attendez quand même, la gauche et la droite ont quand même des candidats, quand même des programmes.
Oui, pour la droite, il y a un candidat déclaré, Xavier Bertrand. Alors pour l'instant, c'est d'un classicisme frigorifique. Hein,
c'est pas mal.
Baisse des dépenses, sujet régalien, bienvenue en 1995. Ah, sinon, il y a aussi Valérie Pécresse, hein, sur la une du Point, la présidente, surtitrée « Si c'était elle », la phrase la plus usée de toute l'histoire de la presse. Bon, à gauche, c'est plus compliqué. La faute à la désunion, disent certains, mais en fait, le problème, c'est pas ça. C'est surtout le fait que tous ces gens sont en décalage avec une part de plus en plus importante de l'électorat. Les commentateurs expliquent en général que c'est parce que la France se droitise. Eh bien, c'est faux.
C'est faux.
C'est faux parce que sur les questions économiques, les sondages le montrent, l'investissement, le contrôle des capitaux, en fait, les Français sont de gauche. Mais de même qu'ils réclament une protection face au bouleversement économique, ben ils veulent une protection face à l'insécurité. Alors, est-ce que ça démontre forcément un glissement à droite? Tant que la gauche le croira, elle sera incapable d'y répondre. Bref, il nous reste un an pour mettre sur la table les sujets essentiels. Protection de tous, réindustrialisation, investissement, aménagement du territoire, tout ce qui change vraiment la vie. Encore faut-il des candidats pour ça.
Et ben moi qui pensais que Natacha nous dirait ce soir qui va gagner l'année prochaine, oui, on est gros gens comme devant là.
J'ai oublié.
Oh mince, vous êtes toujours pas candidate vous?
Non, ça va.
Bon, très bien, merci, comme ça vous reviendrez la semaine prochaine, on sera pas embêté avec les temps de parole. Merci à vous Natacha, demain c'est Philippe Cavrivière qui sera avec nous. Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg, Patrick Bruel, Enrico Macias, Francis Cabrel, Serge Gainsbourg et même Jean Castex. Ils seront tous avec nous dans un instant. Enfin, il y aura surtout le vrai Laurent Gérard et le vrai Eddy Mitchell. C'est en direct ici dans RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
RTL Soir avec Thomas Soto.
Deux stars pour le prix d'une, Eddy Mitchell et Laurent Gérard sont les invités d'RTL Soir.
J'ai trouvé l'air conditionné dans l'automobile que j'ai loué. La ceinture de sécurité. Et en primo on me l'a donné. J'ai fait installer la radio à crédit et en stéréo.
Bonsoir Eddy. Mitchell.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir Laurent Gérard.
Bonsoir Thomas.
À crédit en stéréo, c'est un tube, hein, quel tube 1974, mais c'est aussi le titre du concert que vous allez donner ensemble, oui. Messieurs. Ce sera dans une dizaine
c'est
de jours.
C'est la faute de Laurent.
Mais c'est comment c'est né cette histoire de concert
lui,
là, avec les deux sur scène?
C'est lui, c'est lui.
Non, non, c'est pas moi.
Non, c'est lui. C'est...
Bah, répondez Laurent Gérard, il vous accuse là.
Au départ, c'est Valérie Zetoun qui nous a réunis. Nous, on se connaissait.
Oui.
Je pense qu'on s'apprête.
Non, c'est vrai que c'est une idée de Valérie qui avait donc. Trouver l'idée de Vieilles Canailles qui a coproduit le spectacle et qui coproduit également le spectacle que l'on va donner, Laurent et moi, le 27 mai.
Voilà. Mais ça va être quoi ce, vous allez chanter quoi? Ça va être quoi ce spectacle?
Oh, ça va être un peu n'importe quoi.
Ah bah vous allez donner envie, c'est bien.
Non, mais j'ai... d'abord, il va tâcher de faire des imitations dont il a le secret.
Ouais. Et puis, en chantant, on est d'accord.
On va avoir un bar, ce qui nous a un petit peu...
Ce qui était la condition sine qua non pour accepter, c'est ça.
Oui, convaincu, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Surtout par les temps qui courent, c'est rare. C'est rare, et la preuve, il n'y en a pas ici, donc c'est vous dire.
Non, oui. Ici, on est à l'eau, ici. Hein, ah bon, il ne faut pas plaisanter. Enfin, non, vous avez le trac ou pas? Vous avez le trac de chanter avec Eddie Mitchell ou pas? Il est un petit peu impressionnant, ce garçon.
Un petit peu, mais ce qu'on dit avec Eddie, je pense qu'une fois qu'on aura mis le pied sur scène, voilà. On sait ce qu'on va. Enfin, il y aura des chansons du répertoire d'Eddie, il y aura aussi des chansons du répertoire français, du patrimoine de la chanson.
Mais oui, bien sûr,
n'est-ce pas? Alors c'est un concert qui sera en streaming, hein, qu'on pourra. On achète son billet. Vous serez en smoking, vous? Et vous demandez aux gens qui vous regardent d'être en smoking chez eux ou pas?
Oui, si vous
livrer l'apéro, tout ça. Il y aura plein de stars à travers vous, hein, Laurent, mm-hmm. évidemment. Il paraît qu'il y aura même Jean Castex, monsieur le Premier ministre. Quel va être votre rôle dans cette soirée?
En responsabilité, j'ai trouvé que le titre a crédit et en stéréo était très adapté à l'époque actuelle.
C'est vrai, c'est pas faux.
En responsabilité.
En responsabilité.
Toujours.
Comment il chante, Laurent?
Il chante très bien. Non, sincèrement.
Hors promo, c'est comme si on était entre nous.
Il peut se boucher les oreilles s'il veut. Non, mais il chante bien, c'est vrai. Ouais.
On va déjà chanter ensemble, d'ailleurs. Oui,
on va écouter tout à l'heure. Mais d'abord, je vais qu'on réécoute ces extraits des Vieilles Canailles quand vous chantiez toute la musique que j'aime.
J'aimais mes joies, j'aimais mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante tant que je l'aime. Et je le chanterai toujours là.
Eddie, quand vous... c'est Laurent Gérard hein, qui faisait Eddie Mitchell. Quand vous n'êtes pas troublé, vous, quand vous l'entendez comme ça?
Si, c'est tout son talent, dire, qui ressort en nous imitant tous, que ce soit Dutronc, que ce soit Bruel, Montand, Aznavour, Salvador et j'en passe, et Cabrel aussi.
Qui seront là?
À travers vous. Vous avez déjà été vexé d'être imité, vous? Parce que souvent, on aime bien quand ils imitent les autres, puis quand c'est soi, on a un petit peu moins d'humour ou de...
Non, ça ne me dérange pas.
Non, c'est vrai.
Non, ça fait des droits, c'est bien.
vous l'avez déjà piégé en l'imitant ou pas, Laurent?
Oh oui. Puis,
hein? Ah oui. Bon, racontez.
Bah écoutez, ça remonte, je venais de faire un album qui s'appelait Jambalaya, et ma femme avait organisé un grand dîner à la maison où elle avait fait un vrai Jambalaya, ce qui n'est pas simple à faire.
Non, c'est pas simple.
Et donc j'avais invité Laurent, j'avais invité Johnny, tout le monde voulait... Et puis au dernier moment, Johnny m'appelle en me disant « Non, je suis désolé, je peux pas venir, j'ai un empêchement. » Bon. Et finalement, on sonne chez moi, Laurent arrive, 10 minutes après, Johnny arrive. Je fais « Mais je vois que t'étais pas là. » Et je vois Laurent qui était plié de rire, c'est lui qui m'avait appelé en se faisant passer pour Johnny.
Vous avez fait un faux de Johnny, vous lui avez laissé un faux message. Oui. Ouais, avec des amis comme vous.
Au départ, j'avais dit « Mais il y a Jambalaya et je suis pas invité, comment ça se fait ?»
Et vous êtes bon en imitation, vous, pas?
Non.
Ah, si.
Enfin, si, en tant que chanteur, j'imitais pas mal Jean-Saint Vincent, Blanc. Mais enfin, bon, c'est pas très, 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 très
Eddie
important.
Eddie Constantine aussi, par exemple.
Eddie Constantine, oui. Ouais. Ben, j'ai débuté en chantant les trucs d'Eddie Constantine, de Becco, entre autres, dans des dancings, dans des...
Dont on va parler. Parce que,
dont on va parler.
On va évoquer nos débuts. Au départ, c'était né d'une idée qu'il y a un bar et qu'on raconte, qu'on se raconte des anecdotes et qu'on chante.
C'est-à-dire qu'il y a une histoire, en fait, dans ce spectacle. C'est pas simplement des chansons qui vont s'enchaîner.
Il y a une histoire. Et puis, il y aura Chicandier qui sera au bar, donc, qui va nous relancer sur...
Qui va vous servir.
Des musiciens. Oui, c'est des choses qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Un bar, des musiciens, une salle de spectacle.
Vous évoquiez Becco. Je crois que vous avez Becco en commun, tous les deux.
Je reviens te chercher. Je savais
que tu m'attendais.
Je savais
que l'on ne pourrait.
En quoi Beko vous rapproche? Vous, c'est quoi Beko dans votre vie?
Beko, j'étais très ami avec lui là, à tel point que on s'était donné des surnoms. Il s'appelait, je l'appelais Paul, il m'appelait Mathilde à cause d'une blague ridicule que j'avais racontée.
Mathilde.
Oui, Mathilde.
Vous pouvez nous faire la.
Je vous la raconte. J'avais raconté la fameuse blague de deux hippopotames en pleine jungle, dans un lagon pourri, dégueulasse, avec plein de boue, etc. Il y en a un qui se met à bouger, puis qui regarde l'autre se met à bouger aussi, et il fait une chaleur terrible, et il y en a un qui fait « Tu sais, Mathilde, oui, Paul, ben j'arrive pas à me faire à l'idée qu'on soit lundi. » Voilà.
D'accord.
C'était une histoire très simple que j'aime beaucoup.
Maintenant, vous me dites, vous avez un petit peu une tête à vous appeler Mathilde, hein, c'est vrai.
Oui. Donc,
D'ailleurs, il est revenu.
Vous cherchez. Et vous, Beko, alors?
Ben ouais, j'ai eu la chance de. Quand l'Olympia a été refait à l'identique, c'est Gilbert Beko qui avait un petit peu supervisé pour pas qu'ils fassent de conneries, qu'ils en fassent à l'Olympia, justement à l'identique. Et Gilbert chantait le dimanche, et moi, j'attaquais le lendemain, et on m'a passé le relais, c'était vraiment la réouverture de l'Olympia. Et il m'avait dit tu vois, j'ai laissé une petite trappe au-dessus. Pour que tous ceux qui sont passés voient ceux qui passent sur la scène de l'Olympia. Et c'était très émouvant parce que moi j'adorais Beko. Quand je suis arrivé à Paris, j'allais voir les concerts de Beko. Il était d'une énergie, d'une inventivité. Moi j'adorais les spectacles de Beko. C'était.
Et vous avez longtemps bossé ici avec son fils, hein, Gaïa Beko, ici à RTL.
Avec son fils, Gaïa. Est-ce que je peux moi reprocher un peu au grand public, c'est que bon, des gens très importants comme Aznavour, etc., sont reconnus et que Beko est un peu oublié.
Bah c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai toujours rendu hommage à la fin de mes spectacles. Ouais. J'ai toujours rendu hommage à Beko.
Je trouve qu'il n'est pas assez reconnu, alors qu'il a des chansons extraordinaires et qu'on fait le tour du monde.
Mm-hmm.
Alors,
on va être très heureux de vous voir sur scène ensemble. Et dit Michel, on va être très heureux de vous revoir sur scène. Vous avez fait des adieux à la scène en 2011, vous vous en souvenez? Là, vous préparez un nouvel album qui devrait sortir à la fin de l'année. Est-ce que vous referez une tournée un jour?
Non.
Pourquoi?
Parce qu'il faut y aller, quoi, c'est tout.
Si Laurent vient avec vous, ça peut pas le faire, non?
Non. C'est pas ça. Non, ce que je veux dire par là, c'est que j'en ai marre, moi, des hôtels et des salades gourmandes une heure du matin, parce que il y a les fameuses trucs des 10 heures.
Ouais. 35 heures.
Des 35 heures.
Madame Aubry, oui, c'est vrai.
Ouais. Donc, à partir de 10 heures, on mange plus, quoi. C'est tout. C'est un pays bizarre, la France.
Ouais. Sur votre album, il y a l'harmoniciste et guitariste Charlie McCoy, hein, ça, il fera pas une
normalement, aventure. Oui.
Ça s'est arrangé avec sa femme ou pas?
C'est bon, je sais pas.
Oui. Il paraît que votre accent anglais lui a joué un vilain tour. Racontez-nous cette histoire.
Oui. Oh, c'est une histoire horrible. C'est-à-dire que moi, je parle un anglais très, très, très approximatif, et j'étais reçu chez McCoy. Il m'avait fait un superbe dîner, et je visitais la maison, et je dis à sa femme, « You have a beautiful house ». Bon, mais je prononce très mal, et je voulais dire « une belle maison », elle a compris qu'elle avait un beau cul. Donc ça ne l'a pas fait, quoi. Bon, c'était dur à rattraper.
Il n'est pas rancunier, il sera quand même sur l'album.
Non.
Tiens, on va écouter Eddie Mitchell et Laurent Gérard en vrai.
Cette nouvelle, me faut l'annoncer à ma paroisse.
Là, c'est Laurent.
Je suis curé, bon fils. J'ai pris de afin de préparer mon serment. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me posais bien trop de questions. Au petit matin.
C'était il y a une dizaine d'années sur TF1.
Ah bon?
Ouais.
On change pas.
Hein. Ben non.
En radio, on voit pas la différence. Hein.
Non.
Qu'est-ce qui vous plaît tellement chez Laurent Gérard et Eddie Mitchell?
Je veux dire, c'est le côté facilité de son talent.
Ouais.
C'est la facilité. C'est. Vous avez vu, là, en deux secondes, il nous a fait le Premier ministre, il nous a fait Johnny. Il peut faire qui il veut. Avec une facilité extraordinaire. Ouais. Et ça, c'est un talent qui est unique. Voilà.
Ouais.
Et qui en plus, c'est un grand compagnon de table.
Oui.
Vous avez des restos aussi.
Oui.
Vous allez les rouvrir d'ailleurs, vos restos?
Oui, ça y est. Oui, petit à petit, hein, c'est comme les salles de spectacle. Hein, ouais. J'ai de la chance, j'ai deux domaines où ça ne marche plus.
Mais justement, les salles de spectacle, votre concert, c'est le 27 mai. Normalement, vous auriez le droit d'accueillir un peu de public au Théâtre du Splendide. Pourquoi vous en avez
on commence à 21h.
Ah
eh oui, ouais. On commence à 21h. Ah, ouais.
Donc, au revoir.
Donc, au revoir. Et vous ne le jouerez pas une seule fois après, en vrai, avec des salles et des...
Ben non.
Si vous faites un petit plat pour Eddie Mitchell après, comme ça, il n'a pas ça. Vous êtes d'accord, vous, Laurent?
Ah, moi, je suis d'accord. Moi,
vous pouvez bien faire un petit plaisir à Laurent Gérard, quand même, Eddie Mitchell.
Je veux bien, mais qu'est-ce qu'on va manger?
Voilà, il va s'en occuper. Non, mais c'est vrai, c'est important.
Non, on sait que l'après-spectacle, on en parlait d'ailleurs, juste avant de venir dans ce studio, on dit, mais alors, au fait, qu'est-ce qu'on va manger après?
Bah oui, c'est ça.
C'est important.
Il y a des questions primordiales, quand même.
Là, c'est un tout petit peu un piège, mais vous n'êtes pas obligé de dire oui. Vous nous feriez un tout petit a cappella ou c'est pas du tout possible?
Ah, c'est difficile.
Non.
A cappella de...
Une chanson, un petit quelque chose, non.
Ah, c'est super dur.
Mathilde.
Ça y est, plus.
Parce que vous demandez l'impossible. Non, parce bon. On a justement, on va avoir 9 musiciens.
Oui, donc c'est pas pour faire de la cappella.
C'est pas pour faire de la cappella.
C'est vrai. Ce que ça vous coûte, à crédit en stéréo, le spectacle d'Eddie Mitchell et de Laurent Gérard. Eh ouais, ce sera le 27 mai.
Ah, si on avait fait un a cappella, ça aurait duré plus longtemps.
On aurait débordé. C'est la météo de Louis Baudin qu'on aurait pris encore. En direct du théâtre du Gymnase et en streaming, 29,90€ sur les sites Carrefour.
C'est un prix Carrefour.
Il y en a qui disent, c'est pas donné quand même, 30 balles.
Ah bon, mais dites donc, on peut voir ça en famille, monsieur.
Vous pouvez être 20 pour une personne. Enfin, non, vous n'avez pas le droit d'être 20.
On va...
Non, vous n'avez pas le droit.
Non.
Distance,
on va pas mettre une puce sur chaque.
Oui, c'est vrai qu'en famille, ça passe en fait.
Ouais.
Ouais, ça passe.
Ah non, bah quand même.
Merci beaucoup, messieurs, d'être venus
nous
voir.
Merci.
Et on peut réserver dès maintenant, 27 mai, Théâtre du Gymnase. Et puis Laurent, on
vous
retrouve demain matin.
On vous raconte. Demain matin.
Dans la matinée. Vous levez un peu le matin pour écouter Gérard?
Non, moi, j'écoute pas les. Les malfaisants comme lui.
Cette dernière réponse, on la coupera en montage, hein, on va faire comme ça.
Ah, tu parles d'un malfaisant.
Merci, c'était un plaisir de vous avoir ce soir. Merci à vous.
Merci Thomas.
Miss Monde ne sera pas française puisqu'elle est mexicaine, heureusement. Non, ils veulent plus partir, ils pensent qu'il y a Miss Monde qui arrive. Il y a quand même Julia Molcou qui arrive pour la culture de l'actu. Ça vaut la peine de
Miss
rester.
Miss Monde ne sera pas française.
Non, elle était 21e. Il paraît qu'on est content. Elle est mexicaine.
Ah ouais.
Un petit commentaire.
Un variant.
Allez, à tout de suite.
RTL Soir, Thomas Soto. Thomas Soto, RTL Soir.
18h52, la culture de l'actu. Julia Molcou, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Vous avez eu le temps de revenir et pourtant hier soir avait lieu l'élection de Miss Univers qui a donc sacré la Mexicaine Andrea Meza. Ça s'est joué un cheveu avec vous.
Oui, un cheveu.
L'occasion pour vous de nous parler un peu des Miss et des concours de beauté dans la culture.
Comment vit la toi, déesse, se querelle dans un bois ?
Très court extrait d'un opéra d'Offenbach qui s'appelle La Belle Hélène, et ça c'est un mouvement qui s'appelle le Jugement de Paris. Parce que le Jugement de Paris dans la mythologie grecque, eh bien, c'est le premier concours de beauté. Il oppose trois déesses, Héra, Athéna et Aphrodite, qui se battent pour une pomme d'or sur laquelle est écrit « Pour la plus belle ». Et c'est donc à Paris, prince troyen, qu'il revient de désigner la plus belle déesse de l'Olympe. Et il choisit Aphrodite, la déesse de l'amour, qui lui promet l'amour de la plus belle femme du monde, qui à l'époque n'était pas mexicaine, mais spartiate. Puis qui deviendra troyenne, qui ne s'appelait pas Andrea mais Hélène. Et donc vous l'avez compris et vous le savez, ce qui va déclencher la guerre de Troie, c'est bien l'enlèvement par Paris de la plus belle fille du monde.
Hey, avez-vous rencontré la plus belle fille du monde aujourd'hui ?
Mais vous enregistrez des trucs que pour vous, qu'est-ce que c'est ce truc ?
Oui, celle-là, effectivement, il l'avait dédiée.
Vous la connaissiez, lui ?
Non.
Et ben voilà. Bon alors, à partir du XXe siècle, les concours de beauté se multiplient. Miss America, Miss Turquie, Miss Europe. En 1950, c'est la création du concours Miss Monde et l'année suivante, celui de Miss Univers. Alors pour ceux qui se le demandent, la seule différence entre Miss Monde et Miss Univers, eh bien c'est que le premier est né au Royaume-Uni et que le second est né aux États-Unis.
D'accord.
Voilà, maintenant vous le saurez. Bon, mais
c'est
le
pas qu'il y en a une qui règne sur le monde et l'autre qui règne sur l'univers. D'accord.
Non, c'était plus simple.
Bon, j'aime votre rigueur.
J'ai fait une recherche, n'empêche. Bon, mais le premier concours de beauté jamais fondé, celui qui a vu le jour en 1920, vous savez où il est né, Louis ?
Non.
Eh bien, en France, il s'appelait La plus belle femme de France avant d'être rebaptisé.
Et Claude François en a fait une chanson ?
Non. Miss France en 1927.
Ah !
Bien sûr.
Bien sûr.
Alors, est-ce que vous connaissez le point commun entre le générique de Miss France qu'on entend là et le film La Boum ? Eh bien, c'est Richard Sanderson. Non, oh. Parce que celui que l'on connaît surtout pour son interprétation de... Lâchez la main de Louis, Thomas. Lâchez la main de Louis. Laissez-le tranquille.
Louis, tu sais, on a un truc à vivre.
Oui, je crois.
Bon, chacun alors, dans notre coin, mais...
Donc, Richard Sanderson, qui chante Reality, eh bien, c'est lui qui a composé le générique de Miss France. Voilà. Ça date de 97. Vous le saviez pas?
Non.
Vous êtes content?
Sophie Marceau. Vic, c'est ça, hein?
C'est
Vic,
ça.
Dans la boue, ouais, ouais. Vic Béréton, c'est ça. Bon, et les concours de Miss au cinéma, ça donne quoi?
Je crois qu'on n'y arriverait jamais. Alors,
on va y
2006...
retourner, je vous rassure, on va y retourner à la fin.
En 2006, on faisait la connaissance d'Olive, une petite fille qui, accompagnée de sa famille, allait traverser la Californie pour participer au plus prestigieux concours de beauté pour enfants, Little Miss Sunshine.
Super film.
L'année dernière, on découvrait l'histoire vraie du concours Miss Monde, interrompu en 70 par le mouvement de libération des femmes. Enfin, cette année, ou plutôt dans deux jours, eh ben, on va pouvoir aller voir Miss de Ruben Alves, qui raconte l'histoire d'Alex, un jeune homme qui rêve de devenir Miss France.
Je vais faire Miss France. J'ai besoin de ton aide.
T'aider à quoi?
À devenir Miss France. Non, je suis très sérieux.
D'accord.
Tu peux avoir une explication?
Il n'y a pas ma taille.
Il y a des paires jusqu'au 41.
Je fais du 42.
Tu n'es pas une vraie femme et tu ne le seras jamais.
Ouais, mais je pensais que tu serais un peu fière de moi.
Mais je suis fière de toi, je suis fière de toi. Mais de toi au naturel.
Tu lâches rien.
Pourquoi voulez-vous devenir Miss France?
Même de réécouter des bandes annonces de cinéma, ça fait du bien, on est content. Miss, à voir dès mercredi au cinéma. Et,
oui,
et la chanson, est-ce que c'est intéressé au concours de... Enfin, à part votre ami Claude-François, au concours de beauté au Miss?
Alors, si votre véritable question, c'est est-ce que Jean-Jacques Goldman a chanté le Miss, la réponse est non.
Non, il a un niveau un peu supérieur.
C'est, bah, c'est pas très sympa pour Helmut Fritz, le chanteur français au faux accent allemand. Parce que lui, si...
D'accord, donc vous mettez ça au niveau de Jean-Jacques Goldman. Merci, passez à la suite.
Bon, ok, et en 89, il y avait les Innocents qui avaient remarqué que Miss Monde pleure.
Je ne sais pas où est sa discothèque, mais c'est un truc... Les Innocents, ils ont fait plein de trucs géniaux.
Mais vous vous souvenez du but de ma chronique, c'est de trouver des trucs dans le thème. Enfin, c'est... Parce que bon...
Bon, Vic, viens.